Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Accepter son corps et celui de ceux qui nous entourent, car notre corps est le temple de notre histoire. Voici le magnifique message que Baptiste Beaulieu transmet à travers son album jeunesse à grand succès, Les gens sont beaux. Baptiste est médecin, auteur, mais aussi chroniqueur sur France Inter. C'est également une personnalité très touchante qui nous raconte à travers son propre rapport au corps et celui de ses patients, l'urgence de s'accepter et de le transmettre dès le plus jeune âge aux enfants. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Baptiste.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous et tous.
Comment vas-tu ?
Écoute, ça va, beaucoup de travail, mais ça c'est l'habitude et j'aime bien ça, donc je me plains pas.
C'est la passion.
Oui, bon, je fais le métier qui me plaise, donc j'ai ce privilège-là, donc je le reconnais et je me plains pas.
Comme je le disais en off avant qu'on démarre l'enregistrement, je t'ai découvert récemment, notamment à travers toutes ces magnifiques mises en avant autour de ton nouveau livre dans le métro parisien, parce qu'en effet, on voit beaucoup ce magnifique album jeunesse dont on va parler, qui s'appelle « Les gens sont beaux » et qui se veut être une ode à la beauté et à l'acceptation de soi. Un sujet évidemment qui me touche beaucoup, notamment pour les enfants. Et tu n'es pas uniquement auteur à succès, on y reviendra, tu es aussi médecin, chroniqueur, et ce genre de parcours m'inspire plus que tout. Donc j'aimerais bien que tu nous décrives avec tes propres mots ce que tu fais aujourd'hui d'un point de vue professionnel.
Pour tout vous dire, j'ai un doctorat de médecine, et pendant mes 10 ans d'études de médecine, j'aimais bien... écrire, mais j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours adoré ça. Et je me souviens que quand je quittais les bancs de la faculté, j'allais la Coreb, c'est une manufacture pour les étudiants qui permettait d'imprimer les polycopiés de cours, etc. Et j'imprimais des manuscrits de romans que j'envoyais à des maisons d'édition. Voilà. Et donc, c'est bien plus tard, après mon doctorat de médecine, quand j'ai commencé à m'installer en tant que médecin. C'est là que les maisons d'édition m'ont contacté, m'ont proposé de publier ce que j'écrivais, et ça a tout de suite marché. Donc j'ai cette chance là d'avoir pu rencontrer dès mon premier roman mon public, et ça c'est formidable, parce que je vois tellement de romanciers qui galèrent parfois plusieurs années. C'est des métiers qui sont durs, parce qu'on s'imagine qu'une fois qu'on est publié, ça y est, c'est réglé. On n'a plus ce problème de galérer à trouver un éditeur qui veut bien parier sur notre travail. Mais en fait, non, c'est une fois qu'on a trouvé cet éditeur que les choses commencent, parce qu'on a tellement de moyens d'être noyé dans la masse. Et donc, pour tout dire, actuellement, je partage totalité de mon temps et moite-moite. Quoi. La moitié du temps au cabinet médical au service de mes patients, et la moitié du temps à la terrasse du petit café où je vais tout le temps pour écrire, parce que je n'écris pas chez moi, jamais. Moi, j'ai besoin du brouhaha à la fois du cabinet médical, c'est-à-dire de toutes ces existences qui sont posées devant moi et qui me parlent d'elles, mais aussi du brouhaha du café pour pouvoir trouver l'inspiration et écrire, et notamment écrire sur les gens. Voilà.
J'adore. Est-ce que tu fais donc un lien entre ton métier de médecin et ton métier d'auteur ?
Oui, tout à fait, parce que vous savez, moi je ne crois pas du tout à l'idée du romancier qui vivrait dans sa tour d'ivoire et qui arriverait à raconter la vie des gens sans être au milieu de la vie des gens. Et ça, je ne crois pas une seconde. Alors sans doute que ça peut exister, ça doit exister. Moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. J'ai besoin d'être avec les gens, d'écouter leur quotidien, d'écouter leurs souffrances aussi, tout simplement avec eux, quoi. Et j'en veux pour preuve que les premiers mots que j'ai pu poser en tant que romancier, ce sont notamment ceux que je vivais en tant qu'étudiant en médecine. C'est ça qui m'a passionné et c'est ça que j'ai commencé à vouloir partager. Alors d'abord sur le net, puis après dans des livres. parce que ce qu'on vit en tant qu'étudiant en médecine, c'est tellement fort. On est à une période de sa vie qui est charnière, qui est la post-adolescence, et donc on a envie de croquer la vie, et puis on fait ces études qui sont les seules études où on te confronte directement avec à la fois ben, la mort, et puis aussi avec les corps nus, et puis parfois les deux, c'est-à-dire des corps nus, morts, et à un âge où on pense pas du tout à ça, où on est plutôt dans une forme de boulimie, d'exister, de vivre, de croquer la vie. Et donc, je trouvais que cette coexistence était une matière romanesque folle, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, notamment. Moi, j'ai travaillé au SAMU, j'étais interne à l'époque. Et une nuit, on est appelé, je sais pas, 3-4 heures du matin, à un internat d'adolescence, qui est un lycée, voilà. Et une jeune fille qui avait fait une tentative de suicide suite à un dépit amoureux. Et donc, je me souviens qu'on arrive à 3 heures du matin dans cet internat. Les pompiers sont là, sont en train de masser la jeune fille, faire un massage cardiaque. Et donc, moi, je les remplace parce que c'est épuisant, un massage cardiaque. Mon chef commence, pendant que je masse, commence à essayer d'intuber la jeune fille. Il est 3 heures du matin. Moi, je vois tous ces jeunes lycéens habillés en pyjama qui pleurent parce qu'ils sont choqués de ce qui se passe et de ce qu'ils voient. Et finalement, on n'arrive pas à la sauver parce que c'était trop tard. Et je me souviens qu'on prend son corps et on la ramène dans sa chambre. Il y a des photos d'elle partout, à la plage, à la montagne, avec ses parents. Et je me souviens d'une photo qui tombe à ce moment-là et qui tombe sur le lit. Au moment où on la pose sur le lit, on a dû faire bouger le mur ou j'en sais rien, quoi. Et moi, j'arrêtais pas de penser à ses parents qu'on allait réveiller en pleine nuit pour leur annoncer cette terrible nouvelle. Et là, on remonte dans l'ambulance et il était 3 heures du matin et on rentre à la base et c'est étrange. Vous savez, une ville la nuit, c'est pas du tout la même chose qu'une ville en pleine journée, quoi. Encore plus quand on vient de perdre une adolescente qui a commis cette bêtise absurde. Et à ce moment-là, il y a eu des parasites sur la radio interne de l'ambulance dans laquelle on était à 3 heures du matin au milieu de cette ville endormie. Et on a entendu les premiers cris d'un bébé qui venait à l'autre bout de la ville. C'était une grossesse difficile parce que l'autre équipe était partie sur un accouchement difficile. Et il y a eu des parasites sur la radio et on a entendu comme ça, après ce silence de mort qui régnait dans l'ambulance, on a entendu les cris du bébé et tout ça dans cette atmosphère nocturne. Je vous assure que ça crée vraiment les conditions propices à des interrogations métaphysiques.
Bien sûr.
Très, très fortes, quoi.
Bah ouais. C'est certain. Et comment tu vis aujourd'hui ton métier de médecin? Je sais qu'on se pose quand même tous beaucoup la question, comment faire face à ces difficultés extrêmes auxquelles vous faites face? Comment ne pas trop s'accrocher à ces patients? C'est un sujet qui me passionne.
C'est compliqué. Moi, j'ai jamais pu parce que quand on est médecin, a fortiori médecin généraliste, tu sais, on rentre dans le quotidien des gens et... On contrôle pas ses émotions, on peut pas décider de tomber amoureux, on peut pas décider de tomber en amitié avec quelqu'un, a fortiori quand une fois par semaine on passe chez elle ou chez lui pour régler les perfusions ou les seringues de morphine parce qu'elle a une grave maladie et qu'on sait qu'elle est le moins mal possible et puis la première semaine ça se passe bien, la deuxième semaine ça se passe bien, donc du coup la troisième semaine la patiente ou le patient nous propose un petit café et donc on dit oui parce qu'on a une grosse tournée qui nous attend et puis un jour il commence à nous parler de sa famille, on lui parle de la nôtre et quand tout ça, ça dure 6 mois. Évidemment que quand la personne s'en va à la fin, on perd bien plus qu'un patient lambda. Et c'est dur de ne pas se blinder, quoi. De ne pas se blinder. D'autant plus que si tu veux, on voit des choses tellement belles quand on est soignant de l'humanité qui est incroyable. J'ai notamment souvenir d'une patiente que j'ai accompagnée jusqu'au bout et qui avait un passé très trouble, on va dire ça comme ça. Elle a été très investie dans les luttes antifascistes en Amérique latine et je sais que bon, elle avait dû fuir l'Amérique latine dans des conditions très étranges. Elle m'en avait jamais trop parlé, mais je sais qu'elle avait fait de la lutte armée. Alors, bon, moi, la lutte armée, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais ce que c'est que se battre pour le dernier Ferrero Rocher, mais je sais pas ce que c'est la lutte armée, tu vois. Et donc, elle était chez elle et on a organisé une veillée parce qu'elle était en train de partir, elle était à la fin de sa vie. Et une veillée, donc on reste tous avec ses amis, ses proches, sa famille, on reste éveillé pendant qu'il y a le lit médical au milieu du salon avec la patiente qui s'en va. Et on rit, on pleure, on parle de la vie, de la mort. Et ce sont des moments très, très forts, quoi. Et au petit matin, on sentait qu'elle s'accrochait, qu'elle n'arrivait pas à partir et que c'était dur. Et là, on a tous ses amis sud-américains qui étaient là, qui se sont mis autour de son lit et qui ont chanté un chant révolutionnaire espagnol. Et elle est partie peu de temps après. Et comme si on lui avait permis, grâce à cette chanson, de partir. Et je dis, ça en tant que médecin, ce sont des moments, en tant que médecin et en tant qu'être humain, que je suis heureux d'avoir vécu, tu vois, parce que ça élargit mon humanité.
Ça me rend
plus perméable à l'humanité des autres, plus sensible, et je crois que ça me rend meilleur, en fait.
Et cette belle humanité, t'en parles magnifiquement bien dans ton album Jeunesse, Les gens sont beaux. J'aimerais bien que tu nous expliques en quoi consiste cet album pour tous nos auditeurs qui ne le connaissent pas encore.
Alors, c'est un album jeunesse, il n'y a pas vraiment d'âge. Quand on me demande, je dis ça entre 4 et 77
ouais,
ans.
Ouais, je suis d'accord.
D'ailleurs, c'est très étrange parce que je suis très, très étonné de voir en dédicace le nombre d'enfants qui viennent, et c'est fait pour eux, c'est normal, mais surtout le nombre d'adultes qui viennent sans enfants parce qu'ils ont pris l'album pour eux, parce que ça leur parle aussi. Alors, c'est l'histoire d'un grand-père qui a une vilaine cicatrice sur le visage, une très, très ancienne cicatrice. Et qui raconte à son petit-fils ou sa petite-fille, on ne sait pas trop, l'histoire de cette cicatrice. Et il lui propose de l'emmener voir la Tour Eiffel. Et en allant visiter la Tour Eiffel, il va lui faire croire que tous les gens qu'il rencontre, ce sont d'anciens patients à lui, et que donc il connaît leur histoire. Et que il va vouloir la partager, cette histoire, avec son petit-fils ou sa petite-fille. Et pour une bonne raison, c'est parce que ce sont des histoires de corps et qu'on a tous un corps. C'est un vaisseau qui nous accompagne jusqu'à la fin. Et que ce corps, il a une histoire, c'est-à-dire il est jamais vierge, il ne vient jamais de nulle part. Il a toujours un parcours semé d'embûches derrière lui. Et donc ce grand-père va raconter l'histoire des différents corps de personnes qu'ils vont rencontrer dans la rue, comme ça, en lui faisant croire qu'il les connaît. Tout ça pour pouvoir enseigner cette leçon à sa petite fille, ce qui est une leçon, je crois, qui est fondamentale, qui est de un corps ne va jamais sans histoire. Et quand tu connais l'histoire d'un corps, alors ça devient beaucoup plus compliqué de juger l'autre, de se moquer de l'autre. Et je crois que cette simple leçon, elle est pourtant fondamentale et qu'il est jamais inutile de la rappeler de temps en temps, y compris à moi-même. Peut-être je l'écris aussi pour moi, en tant qu'adulte. Je pourrais parfois oublier.
Bien sûr. Et ça me fait penser à l'une de tes chroniques que j'ai écoutées récemment sur France Inter, où tu parles notamment de prise de poids et de régime, et justement sur cette question de l'acceptation du corps. Pourquoi c'était important pour toi de parler du corps ?
Alors, c'est pour plein de raisons différentes. Alors déjà, parce qu'en tant que médecin, des corps, on en voit, hein, c'est un peu notre métier, et qu'ils sont tous différents, et que surtout, on s'aperçoit à quel point les standards de beauté qu'on veut nous faire avaler, hein, pour tout, hein, ils peuvent plus vendre une voiture ou un pot de yaourt sans mettre une jeune femme dénudée ou un homme torse nu, et ce sont des à chaque fois des corps totalement irréalistes qui correspondent à 0,1% de la population, et pourtant on grandit avec ces images de corps, ces stéréotypes là, et je pense qu'on ne se rend pas très bien compte à quel point ça nous fait du mal psychologiquement, puisque ce sont des corps qui sont entre guillemets inatteignables, qui ne correspondent pas à la réalité. Ce que je veux dire, c'est que on le sait, par exemple avec Instagram, avec les filtres qu'il y a sur les réseaux sociaux, avec la sélection déjà, hein, des photos qu'on met, puisqu'on ne met jamais la plus moche photo de nous sur les réseaux sociaux, on crée chez les jeunes, et notamment chez les jeunes adolescentes, comme ça, on crée les conditions propices à de la dysmorphophobie, à une détérioration drastique de l'image de soi-même. Et ça, c'est effrayant. Et quand moi, en tant que médecin, ça m'effraie, et encore plus quand ma nièce, qui a 16 ans, m'a demandé si elle pensait que je pouvais avoir un compte, elle pouvait avoir un compte Instagram. Elle m'a dit qu'elle avait demandé à sa mère si elle pouvait avoir un compte Instagram. Ça m'a angoissé un petit peu, parce que je sais à quel point ça peut parfois, voilà, générer chez les jeunes filles de la dysmorphophobie. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle lise avant l'adolescence, c'est-à-dire à la préadolescence, tu vois, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle lise pour être armée intellectuellement à l'arrivée sur les réseaux sociaux et à un monde ou même hors réseaux sociaux, tous les corps qu'on va voir ou qu'on va mettre dans l'espace public sont des corps inatteignables et qui ne correspondent pas à la vérité des corps. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien en parler de ça. Et voilà comment ça s'est fait.
Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce que tu dis et dans ton livre, c'est à quel point notre corps est rattaché à une histoire. J'aime beaucoup cette approche. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose à ce sujet.
Tu sais, et je pense que ça parlera beaucoup aux auditeurs et surtout aux éditrices, ce que je veux dire, mais on est tellement maltraitant avec soi-même, tellement... Je te donne un exemple tout bête, mais souvent dans la glace le matin, on peut se dire des vacheries en se regardant le ventre, les bourrelets, les fesses, en se disant « ah ben non », en se pinçant la couenne, en disant « voilà, mais qu'est-ce que c'est moche, ça va pas » et tout. Et je suis sûr que s'il y avait un petit génie qui pouvait noter toutes les phrases qu'on se dit à soi-même dans la glace comme ça, et qui pouvait les mettre de côté ces phrases, et qu'un jour on s'assoit à la terrasse d'un café et qu'il y a un couple qui s'assoit à côté et qu'on entend l'homme par exemple dire à la femme tous ces mots que le génie l'aura noté, on serait les premiers à se lever et à dire à cet homme mais comment tu oses parler à cette femme, arrête immédiatement, c'est insupportable, c'est d'une violence inouïe. Et alors pourquoi est-ce qu'on ne supporterait pas qu'il lui parle comme ça alors qu'on se dit bien pire à soi-même tous les matins, quoi? Et ce constat là moi il m'interpelle beaucoup parce que pourtant, on est tous coincés dans ce corps toute notre vie, quoi. Hein. Et essayons de l'aimer un tout petit peu plus, un petit peu mieux peut-être, ou si on n'y arrive pas, en tout cas, lui témoigner un peu plus d'indulgence compte tenu de l'histoire qui est la sienne, quoi. Je te donne un exemple. Moi, je sais qu'en tant que médecin, par exemple, j'ai pris beaucoup de poids à la fin de mes études. J'étais comme ça. Et c'est vrai que chaque souci, chaque patient qui m'angoisse, chaque patient qui meurt parfois, je sais que j'ai tendance à contrebalancer un petit peu avec la nourriture, quoi. Et chacun fait comme il peut.
Est-ce que c'est des choses que tu essayes de transmettre dans ton cabinet ?
Moi, je sais en tout cas que, en tout cas, l'important pour moi, c'est de vraiment faire sentir aux patientes et aux patients, mais particulièrement aux patientes, que je ne suis pas un médecin jugeant, qu'elles peuvent se confier, qu'elles peuvent parler d'elles, de leur corps, que si elles sont en surpoids et qu'elles viennent pour une angine, je ne vais pas leur parler de leur corps et de leur surpoids, je vais les traiter pour leur angine, qu'elles n'ont pas besoin de moi pour savoir qu'elles sont en surpoids, que toute la société le leur dit en permanence. Et ça, c'est pas moi qui l'ai sorti de mon chapeau, c'est pas moi qui l'ai décidé. Simplement, je sais qu'il y a des études qui montrent que culpabiliser en tant que soignant les patientes sur leur poids, c'est contre-productif au final. On provoque au contraire plus de troubles alimentaires. On en corrige. Et donc, moi, ma position logique en tant que scientifique, c'est, en tant que scientifique médecin, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour mes patientes? En l'occurrence, les études, elles le montrent. C'est sûrement pas de les culpabiliser par rapport à leur poids, quoi. Et donc, moi, je suis conséquentialiste en tant que médecin. Ce que je veux, c'est que mes patientes aillent le mieux possible et qu'elles aillent le mieux. Et ça passe aussi par leur faire sentir que le cabinet est un sanctuaire dans lequel elles pourront un jour, si elles en éprouvent le besoin, venir pour parler de leur poids et que là, à ce moment-là, elles auront en face d'elles une oreille attentive qui sera prête à les aider, à les accompagner sur le chemin de leur choix.
Est-ce que tu as l'impression qu'avec le temps, je ne m'y connais pas, hein, donc peut-être que tu auras des chiffres à partager, mais que les troubles alimentaires augmentent avec le temps dans notre société? Je ne sais pas si toi, est-ce que tu suis particulièrement des jeunes? Bon, je sais que tu n'es pas pédiatre, mais tu dois certainement avoir des enfants et des jeunes qui passent te voir. Est-ce que tu as l'impression que les troubles alimentaires sont de plus en plus importants?
Alors, C'est une évidence, hein. On le voit avec ce terme qui est horrible, qui pour moi ne reflète, enfin ne devrait pas exister, ce qu'ils appellent l'épidémie d'obésité. Il y a des statistiques qui le montrent, mais je pense que c'est un problème qui excède le cadre médical. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où il y a une paupérisation qui est galopante, et donc aussi, on le sait, hein, plus on est riche, mieux on mange, mieux on s'alimente. Et puis plus on a accès à des bons aliments, c'est certain que les maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains types d'obésité, on les retrouve plus dans les classes populaires, pauvres, précaires, que dans les classes les plus aisées. Hein. Et donc, on vit dans une société où les inégalités se creusent. Je pense que ça se traduit aussi par une augmentation, notamment au sein des classes populaires et précaires, d'une augmentation voilà du nombre d'enfants en situation de surpoids. Et ça, c'est très inquiétant. Ça, plus une certaine forme de banalisation des écrans et de sédentarité vis-à-vis de ça qui devrait alarmer beaucoup plus.
Et il y a aussi une banalisation de la maigreur, comme tu le disais tout à l'heure.
Oui. Ben, on le voit notamment, tu sais, ça c'est une mode américaine qui est en train d'arriver chez nous, avec, je ne sais pas si tu as vu le nombre de salles de sport qui ouvrent un peu partout maintenant, les Basic Fit et compagnie, ça c'est typiquement américain, quoi.
Pour en revenir à ton album Les gens sont beaux, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as voulu parler de cet angle-là du corps et de l'acceptation de soi pour les enfants ? Et pas faire un roman comme tu as l'habitude de faire.
Alors, c'est intéressant parce que, tu vois, le grand-père a une cicatrice. Et je me suis inspiré d'un patient qui était à l'hôpital quand j'étais étudiant et qui avait une énorme cicatrice sur le visage et ça lui barrait tout le visage comme ça. Et dans le service, tout le monde voulait savoir d'où elle lui venait cette vieille cicatrice comme ça, mais personne n'osait aller lui demander. Et pourtant, tu sais comment c'est l'hôpital, c'est un microcosme, donc on en parlait beaucoup. Et un jour, je rentre dans sa chambre, je fais mon examen, je procède à mon examen et je lui demande, et sinon, comment vous êtes fait cette cicatrice? Et il était tout content de me raconter, le papy. Il dit, ah voilà, j'étais tout petit, je courais dans le salon de coiffure de mon oncle, et puis il était en train d'affûter son rasoir sur une ceinture affûtage, et je passais derrière, et j'ai pris un coup de rasoir sur le visage, mais c'était il y a très longtemps, ça m'a pas empêché de rencontrer ma femme, elle m'a fait 4 enfants, et il était tout fier de me raconter parce que c'était son histoire. Parce que c'était sa vie, c'était son identité, qu'il avait grandi avec ça, et que je pense qu'il n'envisageait pas de se regarder le matin dans la glace sans cette cicatrice qui l'a toujours accompagné. Et ce qui m'interpellait, c'est que dans la pièce d'à côté, dans la chambre du service à côté, on avait une autre patiente qui était très très âgée aussi et qui avait un tatouage avec des chiffres sur le poignet et qui était une rescapée des camps de la mort et qui, tous les matins, mettait de la poudre sur son tatouage pour le cacher. Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire un parallèle dans ma tête intellectuelle entre, d'un côté, cet homme qui avait cette cicatrice très affichante, voilà, et qui s'en cachait pas et qui s'en glorifiait parce que voilà, c'était son histoire et comme il l'avait dit, ça m'a pas empêché d'avoir une femme et elle m'a fait 4 enfants comme il disait. Et à côté de ça, tu avais cette femme qui n'y était pour rien. Enfin, c'était pas sa faute ce qui lui était arrivé dans ces camps de la mort. Elle y était pour rien, absolument pour rien. Et pourtant, même à son âge, ça continuait à être une forme de quelque chose, peut-être pas de honte, parce que je suis pas dans sa tête, je peux pas savoir ce qu'elle... Mais en tout cas, quelque chose qu'elle devait cacher, tu vois. Et je trouve que ce parallèle disait tout ce qu'on aurait pu avoir envie de raconter à un enfant sur qu'est-ce que c'est être un corps, qu'est-ce que c'est avoir une histoire, qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps et une histoire, comment faire cohabiter les deux, et comment, quand on vieillit comme ça, arriver à finalement être serein avec son histoire et son corps. Et je trouve que ce papy et cette mamie, là, dans la chambre l'une à côté de l'autre, cette histoire-là était tellement forte. J'avais envie de partager ça avec les enfants et pour une bonne raison, c'est que tu vas comprendre tout de suite ce que je veux dire, c'est que je sais pas à quel moment on perd ça, mais c'est tellement beau chez l'enfant. Tu sais, quand l'enfant va tirer sur le pan de ton manteau ou ta chemise en disant regarde maman la dame, regarde le monsieur, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui et ils le font sans penser à mal du tout. Et ça, ce qui me passionne dans ce geste-là, c'est souvent que l'adulte va dire mais non arrête, ne le fixe pas comme ça, parle pas trop fort, ça ne se dit pas. Alors que souvent la personne en question qu'on va désigner, elle préférerait qu'on aille la voir en disant, bon, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, racontez-moi, plutôt que d'avoir des regards d'enfants en coin, comme ça, un peu gênés ou curieux. Je suis sûr que cette personne-là préférerait raconter à l'enfant ce qui est, et que ça créerait du lien intergénérationnel. Et puis, en plus, ça permettrait, comment dire, de faire passer tout un tas de messages hein, sur le corps et les histoires qui vont avec les corps. Et si je te parle de ça, c'est parce que je sais pas pourquoi on en a fait quelque chose d'aussi intime, parce que rien n'est plus extime que l'intime. C'est-à-dire que quand on prend le métro, par exemple, qu'on se retrouve dans une rame de métro, vous pouvez être sûr, il n'y a pas une seule personne dans cette rame de métro qui ne se débat pas secrètement avec un problème en lien avec le corps. Alors, ça peut être de l'eczéma, ça peut être de la boulimie, ça peut être de l'anorexie, ça peut être du psoriasis, ça peut être tout un tas de choses, d'accord, ou une partie de son corps qu'on n'aime pas, ou même de la maladie mentale, plein de choses. Hein. Et il n'y a pas une seule personne qui n'est pas en difficulté dans le vaisseau qui est le sien, qui est ce corps. Et pourtant, elle va le garder pour elle. Mais pourquoi est-ce que, pourquoi on se les échangerait pas nos histoires? Tu vois, pourquoi on se sentirait tellement moins seul? Et puis surtout, le jour où on décide de tous les partager, c'est fini le jugement. Il n'y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Le jugement, il existe parce qu'on pense qu'on a une histoire que les autres n'ont pas et que cette histoire, elle est honteuse. Mais tout le monde a des histoires que les autres n'ont pas. Et on pense tous, les uns les autres, que notre histoire, elle est honteuse ou en tout cas pas racontable. Mais c'est faux. Et on se sentirait tellement moins seul à le savoir, ça.
Ah, c'est tellement vrai. Est-ce que toi-même, tu as eu une histoire particulière avec ton corps quand tu étais jeune ou même aujourd'hui? Est-ce que ce livre résonne aussi avec ton histoire personnelle?
Alors, tu vois, je suis étonné parce que je pense qu'il y a une part du succès de ce livre qui est peut-être due aussi au fait que j'étais un enfant qui avait... Je souffrais d'un... ce qu'on appelle une rosacée lupique depuis que je suis bébé. C'est une maladie auto-immune qui provoque des rougeurs sur le visage très fort. Moi, ça se concentrait essentiellement sur le nez. Et pendant des années, tu sais, quand t'es enfant, c'est très violent, hein. Tout le monde t'appelle le clown, on te montre du doigt parce que pourquoi t'as le nez tout rouge et tout. Et toi, t'es trop petit, tu vas pas expliquer, voilà, c'est une rosacée lupique. Et puis après, t'arrives à l'adolescence et là, la souffrance, elle est très différente. C'est-à-dire que le désir qui te pousse à vouloir être mignon, plaire à, c'est un âge hein, où on veut plaire aux autres et tout. Là, ça entraîne d'autres petits traumatismes, ces maladies dermatologiques affichantes comme ça. Et puis, quand tu arrives à l'âge adulte, que tu rencontres quelqu'un qui t'aime, et c'est marrant parce que moi, la personne avec qui je vis depuis 8 ans, elle m'a dit, moi, la première chose qui m'a plu chez toi quand je t'ai vu, c'est que tu avais le nez très, très rose et j'ai trouvé que tu ressembles à Bambi, c'était trop mignon. Et alors que c'est une chose que je m'évertuais à cacher toute ma vie, c'est justement la chose qui a plu en premier à la personne que j'aime et avec qui je vais me marier. Donc tu vois, c'est, on se fait tout un monde de tout ça, mais donc je crois que c'est pas anodin que j'ai de ma part d'avoir voulu raconter aussi, qu'on a tous une histoire et qu'il faut la partager et que maintenant quand on me dit ah, t'as le nez rouge, je dis oui c'est une rosacée lupique, j'ai ça depuis que je suis enfant, c'est rien de grave, mais ça m'empoisonne un peu la vie parfois. Mais c'est comme ça, et je suis toujours à deux doigts de dire, et toi, c'est quoi ton problème?
Ça va être la prochaine étape.
Ouais.
C'est trop bien. Est-ce que tu aurais des petites actualités ou d'autres projets sur lesquels tu es en train de travailler, que ce soit en lien avec les enfants ou autres, qui pourraient donner envie à nos auditeurs de continuer à te suivre?
Alors, j'ai déjà écrit, moi, tu sais, 5 romans. Alors, à chaque fois, faut que j'arrête parce que depuis que j'écris pour la jeunesse, j'ai dit toujours des romans. Quand je parle de mes romans, je parle de mes romans pour adultes. Alors, il faut que j'arrête avec ce terme parce qu'on a l'impression que j'écris des romans porno ou quoi. Non, alors, j'ai dit des romans adultes, voilà. Enfin, j'écris des romans adultes. Et là, j'ai mon prochain qui est à la correction chez mon éditeur, qui s'appelle l'Iconoclaste. Et donc, on n'a pas encore de titre pour ce roman. Mais je suis très très content, il devrait sortir en octobre. En tout cas, je reviens à mes premières amours qui est de parler de mon métier de médecin. Et après, pour tout dire, j'ai tellement aimé cette expérience d'album jeunesse, notamment parce que je n'ai jamais eu autant l'impression de changer les choses avec mes romans. avec cet album jeunesse, le nombre de retours que j'ai eu d'enfants, de parents qui me disent ça a généré telle et telle réflexion chez mon enfant, je vous remercie pour ça. Et là, on dit, oh mon Dieu, mais en fait, j'ai vraiment posé une empreinte positive sur la manière dont cet enfant va voir le monde, les autres, et peut-être se voir soi lui-même, quoi. Et ça, avec les romans, on n'a pas tout à fait cette expérience, en tout cas différemment, mais là, on a vraiment l'impression de semer des graines positives pour le monde de demain, et c'est réjouissant, quoi. C'est réjouissant de changer le monde un peu en mieux, quoi.
Et en même temps, on n'en a pas parlé, mais les illustrations sont absolument extraordinaires dans cet album. Peut-être que tu veux dire un mot dessus?
Oui, parce que je voudrais parler d'elle, parce que elle est formidable. Elle s'appelle Kin Lang. Elle est illustratrice. Elle vit à Toronto, au Canada. Et elle est assez connue là-bas, notamment parce que elle a reçu beaucoup de prix pour son travail d'illustration, et notamment le Grand Prix du Gouverneur, qui est l'équivalent du Goncourt, mais pour les illustrateurs au Canada. Et c'est vrai que je trouve que ces illustrations se prêtent à merveille à mon histoire, quoi. Notamment parce que elle a un trait, elle dessine tout à l'aquarelle, et il y a cette douceur là. On sent que quelque part, elle aussi, elle trouve que les gens sont beaux.
Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager aux gens qui nous écoutent, des parents, des professionnels de l'éducation, sur ce qu'ils ont à transmettre sur cette acceptation de soi et de son corps?
Une des choses qui m'a le plus fait grandir en tant qu'enfant et que j'aimerais transmettre aux enfants à mon tour, c'est le goût pour la lecture. Tu vois, l'autre jour, j'entendais une romancière anglaise qui a dit quelque chose. Sur le coup, ça m'a un peu heurté. J'ai trouvé que c'était pas une bonne manière d'éduquer ses enfants. Et avec le recul, je me dis non, peut-être que c'est elle qui a raison. Elle disait qu'elle payait ses enfants pour lire. C'est-à-dire que c'était comme le travail. Voilà, vous allez au travail. Et donc, il restait une heure avec un livre, surtout s'ils avaient pas envie de lire. Et puis, elle leur donnait une petite pièce à la fin et tout. Et elle me disait, je vais faire ça quelques temps. Et après, parce qu'ils étaient grands maintenant, ces enfants. Elle disait, j'ai fait ça quelques temps. Puis après, je n'avais plus besoin de les payer parce que la lecture avait fait son travail et les avait complètement attrapés. Et je me dis, c'est tellement important pour l'émancipation intellectuelle de l'enfant d'arriver à aimer la lecture, d'arriver à aimer les livres, qu'importe les moyens. Et tu te dis, je suis conseilliste, moi je suis pas déontologiste. Qu'importe les moyens, c'est la fin qui justifie tout. Donc voilà. Payez peut-être vos enfants pour qu'ils lisent, mais l'important, c'est qu'ils lisent. Voilà.
Est-ce que tu as un livre dans ta jeunesse ou même récemment qui t'a particulièrement marqué?
Alors, dans ma jeunesse, j'en ai deux qui m'ont bouleversé et que je relis régulièrement. Le premier, c'est un livre très peu connu de George Sand qui s'appelle « L'histoire du véritable gribouille ». C'est pour les enfants. C'est un des seuls livres qu'elle a écrit particulièrement pour les enfants. C'est l'histoire d'un enfant qui est trop gentil pour ce monde. Il va lui arriver que des péripéties et beaucoup de malheurs parce que le monde n'est pas fait pour les gentils. Et pourtant, malgré tout, elle arrive à en dégager une morale qui est très très belle et très touchante et qui est toujours d'actualité, je crois. Donc ça s'appelle « L'histoire du véritable gribouille » et c'est de George Sand. Et le deuxième livre, moi, qui m'a bouleversé, c'est un livre de Richard Bach qui s'appelle « Jonathan Livingstone, le goéland », qui est un livre très connu aussi dans la littérature jeunesse, l'histoire d'un goéland qui n'arrive pas à voler et il va apprendre à voler. Enfin, c'est très métaphorique, c'est très symbolique, c'est sublimissime. Je me dis, si j'arrivais un jour à être pour des enfants ce que ces auteurs ont été pour moi, franchement, je peux mourir demain, je serai heureux.
tu fais déjà tellement. Merci beaucoup, Baptiste. On doit se quitter maintenant. Je te remercie vraiment pour ta disponibilité parce que je sais que tu as un agenda qui est très rempli. Je rappelle à nos auditeurs que ton dernier album jeunesse s'appelle Les gens sont beaux, et c'est aux éditions Les Arènes. Merci pour tout.
Merci à toi, Stéphanie. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts.
Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaies.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de Demain.